bonjour à tous. Après 13 jours de violence et 400 morts, un cessez-le-feu sous égide russe entre en vigueur tout à l'heure dans le Haut-Karabakh. Il a été négocié pendant 10 heures entre Yerevan et Bakou. Les détails dans quelques instants. Les derniers verres de Saint-Étienne hier soir, les verres qu'on boit évidemment. Saint-Étienne qui, comme Lyon, Grenoble et Lille, voit ses bars fermés pour 15 jours à partir d'aujourd'hui. Covid oblige. Reportage dans ce journal. Et puis à suivre, les petits mots d'Edouard Philippe en visite à Blois hier. Et enfin, Esprit Sport avec Laetitia Bernard. Le judo japonais face à sa culture de la violence. On en parlera tout à l'heure.
Et puis un mot sur l'invité de 8h20. Ce sera Sandra Régol, la secrétaire nationale adjointe Europe Écologie Les Verts.
France Inter.
Il y aura donc un cessez-le-feu qui va entrer en vigueur à midi, aujourd'hui, dans le Haut-Karabakh.
Un résultat d'un marathon diplomatique ces dernières heures à Moscou, sous l'égide de la Russie. Les ministres arméniens et azerbaïdjanais des Affaires étrangères se sont accordés pour cette trêve. Elle aura pour un but humanitaire, échange de prisonniers et de corps sont notamment prévus. Ce cessez-le-feu met un terme à 13 jours de violence. À Moscou, les précisions de Jean-Didier Revoin.
Les traits tirés, mais sans cacher une certaine satisfaction, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est exprimé brièvement au terme de négociations menées avec ses homologues arméniens et azerbaïdjanais. L'accord intervenu tard dans la nuit porte sur les points suivants. Un cessez-le-feu entrera en vigueur aujourd'hui à midi. Ces conditions seront définies ultérieurement. Enfin, les parties s'engagent à une résolution pacifique de leurs différends et à ne pas changer le format du processus de négociation. Cela signifie que le groupe de Minsk de l'OSCE, coprésidé par la Russie, les États-Unis et la France, reste le principal médiateur international du conflit. Mais cet accord marque une avancée importante depuis la reprise des hostilités le 27 septembre dernier. Il doit permettre aux parties de procéder à l'échange des prisonniers et des corps des victimes. Selon les médias russes, le calme semble être revenu à Stepanakert, la capitale du Nagorno-Karabakh. Pour la première fois depuis plusieurs jours, le son des sirènes n'a pas retenti et aucun obus n'est tombé sur la ville durant la nuit. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Et je vous le disais en titre, les affrontements des deux dernières semaines auront coûté la vie à au moins 400 personnes, dont une cinquantaine de civils. L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'annulation aux États-Unis du deuxième débat entre Donald Trump et Joe Biden. Les deux candidats à la présidence devaient s'affronter jeudi prochain, mais le président sortant refusait de participer à un débat virtuel comme le proposaient les organisateurs. Le troisième et dernier débat est maintenu le 22 octobre prochain à Nashville, dans le Tennessee. Comment s'est négociée la libération de Sophie Petronin? On ne le sait pas exactement après le retour de l'humanitaire française hier après 4 ans aux mains des djihadistes au Mali. À Bamako, les autorités maliennes évoquent la libération de plusieurs djihadistes. En contrepartie, à Paris, on salue seulement le rôle des autorités maliennes sans plus de détails. Ces zones d'ombre poussent Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, à demander des éclaircissements à l'exécutif. D'autres voix exigent, elles, un débat plus large sur le rôle de la France au Mali. C'est le cas du député MoDem Bruno Fuchs, membre du groupe d'amitié France-Mali.
Bien sûr qu'il faut savoir comment cela s'est passé, mais au-delà de la polémique que Marine Le Pen veut créer, on est là d'un sujet beaucoup plus large, beaucoup plus important, qui est celui de l'engagement de la France au Mali, un engagement qui était décidé en 2013, qui était débattu au Parlement en 2013 et qui doit, 7 ans plus tard, retrouver une tribune et un débat public qui doit se dérouler à l'Assemblée. On peut pas avoir 45 soldats morts depuis 2013 au Mali, soldats français, avec des moyens financiers qui sont apportés au Mali pour combattre le djihadisme. On ne peut pas le faire, et le gouvernement ne peut pas le faire, s'il n'a pas un soutien fort du peuple français, et ce soutien ne peut venir que d'un débat public à l'Assemblée qui doit avoir lieu sur la question et la stratégie de l'engagement de la France au Mali.
Le député MoDem Bruno Fuchs, et puis on le rappelle, Sophie Petronin a été libérée en même temps que l'opposant malien Soumaïla Cissé et deux autres ressortissants italiens. Sophie Petronin qui a aussi informé les autorités françaises de la mort d'une autre otage, une Suissesse tuée par ses ravisseurs il y a un mois, selon l'ex-otage.
Quatre nouvelles métropoles basculent aujourd'hui en zone d'alerte Covid maximale.
Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, où comme à Aix-Marseille et Paris, les bars doivent fermer pour 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Hier soir, les établissements concernés accueillaient donc leurs derniers clients, des jeunes pour beaucoup et forcément déçus. Reportage à Saint-Étienne, signé Céline Autain.
Le temps beau et doux, les terrasses remplies de monde et leurs QG au bar. Solal et Clémentine ne sont pas prêts à s'en passer.
C'est relou! Moi, je suis nouveau, je viens d'arriver en France. Ça me fait chier la fermeture des bars. Hein. Pas pouvoir sortir, pas pouvoir rencontrer des gens, tout ça, c'est un peu chiant.
Fini les mojitos et le whisky coca, pas si sûr. Les deux lycéens vont se trouver d'autres lieux pour boire des verres.
À la maison, et ce sera la même ambiance que dans les bars, on sera plein et on sera à 30 cm de distance. Et bah, faut continuer de vivre, quoi. Après un confinement, c'est quand même difficile de se remettre dans une optique de privation de droits, quand même.
Sarah, elle, a décidé de prendre la situation moins tragiquement.
Ça va être l'occasion de se remettre au sport.
Les salles de sport sont fermées.
Non, mais en extérieur, voilà, ce sera l'occasion de manger des brocolis et des courgettes accompagnées d'une badoie, puisque c'est local.
Santé.
Pourtant, parmi les tables, il y en a qui n'ont pas le cœur à rire. Créline est étudiante en première année d'histoire à la fac et serveuse en soirée pour joindre les deux bouts.
Je suis dégoûtée de perdre mon job pour quelques temps. J'espère pas définitivement. J'ai pas de bourse, j'ai la PL et c'est tout. Et puis après, j'ai quelques économies, mais bon, j'espère que ça va tenir.
Elle doit faire une croix sur les 800 euros mensuels de son petit boulot et pour l'instant, elle n'a pas de plan B.
Reportage signé Céline Autin. Et pendant ce temps, la situation sanitaire se dégrade encore ces dernières heures avec un record de plus de 20 000 nouvelles contaminations enregistrées entre jeudi et hier. Près d'une semaine après le passage de la tempête Alex, le choc et la désolation toujours dans les vallées sinistrées des Alpes-Maritimes. Un dernier bilan publié ce matin fait état de 6 morts, 9 disparus et 13 supposés disparus. Si le département reçoit un soutien appuyé de l'exécutif avec notamment l'état de catastrophe naturelle, des conseils affluent également, comme celui du maire de la Faute-sur-Mer. C'est en Vendée et la localité avait été victime de la tempête Xynthia il y a 10 ans. Laurent Huget, nouveau maire de la ville, donne donc ses conseils au maire azuréen.
Si on se tutoyait, je lui dirais fais gaffe et je lui montrerais pas mal de points sur lesquels il faut qu'il fasse gaffe. Déjà, le premier, c'est lis bien ton contrat d'assurance de la collectivité parce que nous avons été extrêmement surpris de voir que l'assurance de la commune se désengage de la catastrophe naturelle, par exemple. On l'a découvert après. Et puis, ensuite, il va y avoir, je vous dis, le temps des responsabilités financières. Qui sera responsable d'avoir exécuté ou pas exécuté peut-être le plan de sauvegarde? Est-ce que les plans communaux de sauvegarde ont été lancés la nuit de la catastrophe? Enfin voilà, on va venir chercher tout le monde en responsabilité. Vous verrez, pour faire en sorte que le financier soit le moins impactant possible pour ceux qui ont à payer s'ils doivent payer.
Le maire de la Faute-sur-Mer, Laurent Huget. Des manifestations anti-PMA pour toutes aujourd'hui dans plusieurs villes, à Paris, Bordeaux, Toulouse ou encore Lille. Des rassemblements limités en raison de la crise sanitaire à 1000 personnes et organisés par le collectif Marchons Enfants, dont fait notamment partie la Manif pour tous. Anne Hidalgo demande la démission immédiate de Pierre Heidenbaum de son poste de conseiller de Paris. L'ancien adjoint de la maire de la capitale est mis en examen depuis hier soir pour viol et agression sexuelle. Pierre Heidenbaum, 78 ans, a été accusé par une collaboratrice le 14 septembre dernier.
Trois anciens premiers ministres hier à Blois.
Bernard Cazeneuve, Jean-Marc Ayrault et le moins ancien Édouard Philippe. Ils se sont croisés au rendez-vous de l'histoire. Ce n'est pas une formule, c'est le nom de l'événement organisé à Blois jusqu'à dimanche. Édouard Philippe, très populaire dans les sondages, a forcément été très remarqué. Il a notamment évoqué les dangers de l'impopularité. Reportage Laurence Perron.
Édouard Philippe se fait plaisir, selfie avec des étudiantes en pamoisie.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Il masque un peu son début de campagne présidentielle, je pense.
Longue déambulation sur le salon du livre avec un stop remarqué devant un livre de Rocard, Amour de jeunesse.
J'avais 20 ans, hein. Donc,
oui, bien sûr.
Oui, bah vous marrez pas, ça m'est arrivé, hein. Je veux dire, bon, c'est fini, mais.
L'auteur lui explique qu'il s'est servi des notes qu'écrivait quotidiennement l'ancien Premier ministre socialiste.
Moi, je serais un désastre pour les historiens qui ne s'intéresseront pas à moi, heureusement, mais parce que je ne prenais quasiment aucune note, sauf sur Notre-Dame-des-Landes. Mais sinon, j'ai pris aucune note.
C'est Emmanuel Macron qui a décidé l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Édouard Philippe a exécuté, non sans état d'âme. En parlant d'exécution, le maire du Havre insiste sur le sort de Charles Ier, roi anglais très impopulaire, qui finira sur l'échafaud en 1649.
Quand même, eux aussi, ils ont décapité leur roi, je veux dire, après tout. Tout ça part d'une contestation politique qui se termine par une décapitation.
N'y voir aucune malice, comme lorsque le dernier Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, lui confie.
Je n'ai plus de mandat, je préside simplement une association botanique.
Tu cultives ton jardin.
Exactement, et pour que les plantes poussent, parfois, il faut très longtemps. Donc c'est une école de la patience, la botanique.
Oui. Aucune malice, assurément.
Et à 8h10 sur France Inter, c'est l'heure des sports. L'heure des sports, on va y aller sans virgule comme ça.
Très bien, pas de problème. On parle tennis, Eric, avec la finale dames de Roland-Garros tout à l'heure. L'américaine Sofia Kenin, sixième joueuse mondiale, affronte la polonaise Iga Świątek. J'espère que ça se prononce comme ça.
Świątek.
Bravo, Eric. C'est une novice à ce stade de la compétition.
19 ans.
C'est sa toute première finale de Grand Chelem à 19 ans, tout à fait. L'ancienne championne française Mary Pierce est d'ailleurs impressionnée par l'invitée surprise de cette finale. Elle s'attend à un match ouvert.
Świątek, j'étais très étonnée qu'elle a battu Halep, parce que Halep c'est une des favorites pour le tournoi, et qu'elle a battu assez facilement et qu'elle était capable à rester sereine jusqu'au bout et de terminer le match sans vraiment trop trembler. Ça m'a étonnée. Puis après, Kenin, je trouve qu'elle joue de mieux en mieux et elle est solide et puis elle est voilà, mentalement forte, elle s'accroche, donc c'est très ouvert.
L'ancienne championne française Mary Pierce, déjà vainqueur de Roland-Garros d'ailleurs, vous vous souvenez en quelle année, Eric?
Redites-moi.
C'était en l'an 2000, bravo Laetitia.
Oui, c'est il y a 20 ans.
On vous retrouve dans quelques instants, Laetitia, pour parler judo, mais juste avant, évidemment, donc déjà l'heure de la finale dames, c'est à 15h tout à l'heure, et puis on a l'affiche de la finale hommes, ce sera le dimanche, un grand classique, Rafael Nadal contre Novak Djokovic. Novak Djokovic, difficile vainqueur du grec Tsitsipas en 5 manches, et qui va donc tenter de décrocher un deuxième Roland-Garros dimanche. Lui, Rafael Nadal en a déjà 12, il va donc tenter d'en décrocher un 13e.
Et bon, comme il est superstitieux, il dit 12 plus 1.
Exactement.
L'espagnol.
Voilà. Rafael Nadal, 12 finales disputées jusque-là, 12 finales remportées. Laetitia Bernard, bonjour.
Bonjour.
Un chiffre ce matin dans Esprit Sport. 121, c'est le nombre de jeunes qui seraient décédés en pratiquant le judo au Japon entre 1983 et 2016. Et cela fait plusieurs années que des organisations non gouvernementales donnent l'alerte sur le phénomène.
Le judo en japonais signifie la voie douce. On utilise la puissance de l'adversaire. Mais visiblement, certaines méthodes d'entraînement sont tout sauf douces, à tel point qu'une association japonaise des victimes d'accidents de judo s'est créée. Elle a alerté déjà en 2011 et elle dénonçait une culture militaire dans les écoles, des châtiments corporels, des professeurs, des coups de pied, des coups de poing tolérés. C'est elle qui donne le nombre de 121 décès signalés, soit presque 4 enfants par an. Et elle cite encore des exemples pour l'an dernier, pour 2019, celui d'un adolescent de 12 ans décédé d'un caillot sanguin après s'être cogné la tête lors d'un combat. Elle cite aussi le cas d'un jeune de 13 ans gravement blessé après une prise, tout en insistant sur le fait que pratiquer le judo en toute sécurité est évidemment possible. Elle rappelle qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Australie, aucun décès d'enfants en pratiquant ce sport n'a été à déplorer ces 20 dernières années.
Voilà, et cette situation fait sortir du silence le président de la Fédération japonaise de judo, le champion olympique 1984, Yasuhiro Yamashita.
Il regrette effectivement une légende de ce sport, surtout là-bas. Il regrette que le judo soit considéré comme extrêmement dangereux. Le monde du judo japonais devrait prendre cela extrêmement au sérieux, dit dit-il à l'agence Associated Press dans un entretien qui a été publié hier. La légende de ce sport, donc celui qui a régné sans partage sur les tatamis dans les années 80, admet franchement que les problèmes sont graves, même s'il n'évoque que quelques blessures liées à des sanctions pendant les entraînements. Et il précise, le problème est que le message n'a pas encore atteint tout le monde à la base.
Et les cas de maltraitance de jeunes sportifs japonais ne concernent pas que le judo d'ailleurs.
19% des jeunes athlètes de haut niveau japonais auraient subi des violences selon un rapport de Human Rights Watch publié cet été, un rapport intitulé « J'ai été frappé tellement de fois que je ne peux pas compter ». Harcèlement, intimidation, des pratiques qui perdurent. Car en 2013 déjà, des vidéos les avaient mises au jour et provoqué un tel scandale que le comité olympique japonais avait mené des enquêtes au sein de toutes ces fédérations et même déjà sanctionné celle de judo en réduisant son financement après des affaires d'agression sexuelle.
Et comment l'ONG explique-t-elle cette situation ?
Après avoir croisé des entretiens de parents, d'entraîneurs, d'enfants, de journalistes aussi, elle met en avant le fait que la culture de la maltraitance des enfants est acceptée dans la société japonaise au bénéfice de la victoire et des trophées, ce qui empêche bien souvent les jeunes de porter plainte, d'autant que lorsqu'ils le font, les écoles ou les fédérations punissent rarement les coupables et avancent plutôt des accidents. Mais en accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques reportés à l'été prochain, tous les projecteurs vont être braqués sur le pays. L'exemple du judo, sport emblématique, peut cristalliser les critiques et provoquer des réactions. C'est notamment ce qu'espère Human Rights Watch pour que des mesures évidemment soient prises le plus rapidement possible afin de protéger des milliers d'enfants.
C'était Esprit Sport avec Laetitia Bernard. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite de la matinale, c'est avec vous, Éric Delvaux.
Avec Patricia Martin. Merci Raphaël Delvolvé. Le temps de ce samedi.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Un samedi plus frais qu'hier, Jean-Michel Golinski.
Des températures qui s'orientent à la baisse. En début de journée, la plupart des valeurs indiquaient 7 à 10 degrés au nord d'un axe Bordeaux-Besançon. Une relative douceur persistait encore le long de la Garonne, avec par exemple 16 à Auch et à Toulouse, et autour de la Méditerranée avec 18 à Port-le-Cate, 16 à Calvi. Cet après-midi, les valeurs vont se maintenir un peu comme hier, entre 20 et 23 degrés sur les régions méditerranéennes, où le Mistral et la Tramontane vers 80 km à l'heure vont permettre au soleil de briller. Sur le reste du pays, le ciel sera plus partagé, plus mitigé, avec ce matin de fréquentes ondées entre le sud-ouest et l'Auvergne-Rhône-Alpes. En journée, ce temps instable aura tendance à se généraliser dans des températures plus basses de 2 à 4 degrés par rapport à hier.